plus. Drainville PM. Les chefs.
Et ce que j'ai commencé à faire pendant mon campagne pour la chefferie, j'ai dit que je vais montrer ma respect, la priorité du Québec. Et j'ai continué ça comme chef. Ce que j'ai dit comme chef, j'ai vraiment montré cette ouverture, cette reconnaissance des enjeux spécifiques au Québec.
Les chefs. Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Alors, c'était le chef du NPD, Jack Meadsing, que vous venez d'entendre. Il tenait son congrès, son grand congrès, en fin de semaine à Ottawa. Et pour discuter de cela et de bien d'autres choses, Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, Alec.
Bonjour.
Et Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Antoine.
Bonjour, Bernard.
Alec, allons-y avec Jack Meadsing. Donc,
oui.
Oui, tout ce qu'il vient de dire, je pense que c'est vrai.
Écoute, moi, on en avait parlé un petit peu vendredi. Je te disais qu'il y avait, à ce grand congrès du NPD à Ottawa, beaucoup de résolutions nationalistes québécoises, hein, des résolutions pro-Québec. Ouais. Puis je te disais, on va être prudent, ça ne veut pas dire qu'ils vont les adopter. C'est pas parce qu'ils sont proposés que les délégués vont voter en faveur. Bien, à ma grande surprise, ils ont toutes passé ces résolutions-là.
Ouais.
Alors, il y en a une qui dit, par exemple, que le NPD est d'accord avec une déclaration de revenus unique qui serait gérée par Revenu Québec, parce qu'on sait, dans le reste du pays, c'est l'inverse. C'est l'Agence de revenus du Canada qui perçoit les impôts, qui gère la déclaration de revenu unique, puis qui envoie les transferts, qui transfère l'argent aux gouvernements provinciaux. Donc là, on est prêt au NPD à ce que Revenu Québec s'en occupe et transfère le tout à Ottawa.
C'est la seule... Comme on le fait pour la TPS.
Exact.
C'est Revenu Québec qui collecte
la TPS. C'est le seul parti à Ottawa qui est d'accord avec ça. À Québec, c'est un débat depuis un petit moment. Là, la CAQ le propose, le PQ le propose. Mais c'est la première fois qu'un parti fédéral est d'accord avec ça.
Le parti au pouvoir a même pensé faire l'inverse à un moment donné, au début de son mandat.
Oui, pour économiser.
C'était terrible, ça.
Avec Martin Coiteux, oui.
C'était terrible. Il voulait comme sacrifier notre autonomie fiscale.
Ça. Oui. Bon. Alors ça a passé, tu as bien raison.
Ils ont adopté la résolution qui dit que le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982 sans l'accord du Québec est une erreur historique. Et à l'intérieur de cette résolution-là, le NPD appuie tout effort sérieux visant à reconnaître le caractère national du Québec et à assurer son adhésion au cadre constitutionnel canadien. Là, je te le lis, c'est entre guillemets.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'on est favorable à une réouverture de la Constitution, y intégrer le Québec aussi. Donc, ça a passé aussi. On a eu un discours de Jack Meadsing très chargé sur Netflix, entre autres. Le NPD est maintenant officiellement d'accord avec l'idée de charger la TPS aux utilisateurs de Netflix. C'est pas une résolution pro-Québec comme telle, mais quand on sait l'indifférence du Canada anglais par rapport à ce sujet-là, alors que tout l'automne, ça a été un gros débat au Québec, c'est presque un discours nationaliste québécois parce que dans le reste du pays, là, honnêtement, ils sont contents de ne pas payer de TPS.
Mais c'est ce que j'allais dire. Il prend un certain risque. Parce
il prend un risque certain.
L'idée que de le faire, d'obliger Netflix à percevoir la taxe de vente, c'est devenu la taxe Netflix dans le reste du Canada. Et Harper a installé ce débat-là. Trudeau s'est comme plié à ça.
Exact.
Il s'est comme peinturé dans le coin à cause, justement, de la position de Harper.
Et au sein du NPD, on a peur d'être accusé de vouloir augmenter le fardeau fiscal de la classe moyenne. Même la chef du NPD de l'Ontario, Andrea Horvath, qui s'en va en élection ce printemps, est contre la résolution qui a été adoptée par le grand frère fédéral, le NPD, en fin de semaine. Parce qu'elle n'avait pas... Elle dit les Ontariens ont de la misère à joindre les deux bouts, on ne va pas ajouter la TPS en plus. Bon, alors, vous voyez comment ce débat-là au Canada anglais est complètement différent du Québec.
Poche,
là.
En tout cas.
Alors, le fait que Jack Meadsing en parle, moi, je trouve que ça faisait quasiment un discours à saveur nationaliste québécoise, étant donné le débat. Et c'est pas parce que, pourtant, dans la salle, il y avait quoi, à peu près 2000 délégués, c'est pas parce qu'on avait pacté la salle de Québécois là, que ça a passé ces résolutions-là. Il était 10% des 2000. Il était à peine 200 qui venaient du Québec, même si c'était à Ottawa. Donc, c'est clairement des militants du Canada anglais qui ont regardé les résolutions proposées par l'aile québécoise puis qui ont dit « c'est une bonne idée, puis on va embarquer avec ça ». Moi, ça me surprend. Je t'avoue qu'ils sont allés quand même loin les résolutions qu'ils ont adoptées en fin de semaine.
Tu vois, moi, j'ai observé ça vendredi après-midi. Il n'y a rien comme un bon congrès NPD pour te stimuler.
Avant une fin de semaine, hein?
Boy! Et donc, j'écoutais Alors, celle sur le Québec... Je dois dire, ils l'ont quand même bien tourné, Alec. Parce qu'il y a le paragraphe sur le Québec, erreur historique, reconnaissance constitutionnelle de la nation. Là.
Ouais.
Et le paragraphe d'après, c'est il faut aussi que les Premières Nations
autochtones
soient reconnues dans un éventuel processus de renouvellement constitutionnel. J'ai trouvé ça très habile.
T'as raison. En allant chercher, parce qu'au NPD, cette question-là est très importante. Ouais, il y a Roméo Saganage qui est là. Donc, effectivement, peut-être que c'était plus rassembleur d'y aller comme
tout
ça.
Tout à fait. Tout à
Absolument.
Fait.
J'ai un extrait pour toi, donc, de Jasmine Singh qui parle de ses résolutions très pro-Québec. Écoutons-le.
On a une province de notre pays qui n'a pas signé la Constitution. Ce n'est pas acceptable. Donc, j'ai voulu montrer ma compréhension, ma reconnaissance de cette injustice. J'adore le Québec et je pense que c'est très important de continuer de bâtir un pays qui est vraiment inclusif.
Oui. Et d'ailleurs, son français, moi, je n'ai rien à dire sur son français. Il est excellent.
Alors, évidemment, au Québec, on a 16 députés du NPD. La plupart sont actuellement en danger si on se fie aux intentions de vote. Donc,
12 % Dans le dernier léger, le NPD est à 12 %.
Alors, tu as besoin de remonter un peu au Québec. Alors, c'est pas innocent, là, ce type de résolution-là. On veut rattraper au Québec ce qu'on a perdu. Il y a Outremont qui s'en vient, comme une élection partielle, probablement à l'automne. Outremont, c'est un symbole. C'est Thomas Mulcair qui est là. C'est un comté plutôt libéral, mais on voudrait bien le garder.
Alors, Va être dur.
Ça va être très difficile. D'ailleurs, j'ai un extrait, je peux te faire entendre, Jacques Mutting, sur Outremont, justement, la bataille assez rude qui s'en vient, là, probablement plus tard cet automne.
C'est important, c'est clair. C'est un comté, c'est une circonscription très importante pour nous. Il y a un élément historique de la victoire là. Et oui, on va travailler très fort en Outremont. On veut gagner. Mais plus que ça, on veut vraiment montrer qu'on comprend, on connaît les enjeux, les défis du Québec et en particulier de Outremont.
Voilà. Mm. Alors, il y a d'autres résolutions que je surveillais qui n'ont pas été priorisées par le parti. Hein. Tu sais comment ça fonctionne.
Oui.
Tout sort des comités, là, puis des
ateliers.
Des ateliers. Ouais. Puis là, finalement, le parti met ça en ordre parce qu'ils savent bien qu'on n'aura pas le temps de débattre de tout à la plénière.
Oui.
Alors, celle très déchirante dont je te parlais vendredi sur le pipeline Trans Mountain qui traverse là, l'Alberta jusqu'en Colombie-Britannique n'a pas été priorisée.
Alors, quelle surprise.
On n'en a pas débattu. Alors, les militants NPD de la Colombie-Britannique et les militants NPD de l'Alberta qui sont à couteau tiré sur ce sujet-là n'ont pas eu besoin de vociférer au micro. Ça n'a pas fini en chicane puis en déchirage de chemise. Ils ont juste mis ça bien, bien, bien loin dans la liste. Puis si on se rend, ben tant mieux. Et on ne s'est pas rendu. Alors, ça n'a pas été voté.
Oui. Et il a reçu par ailleurs un très beau vote de confiance, M. Singh. Hein?
90,7%. Bon, 91. Mais ben là, il vient d'être élu en octobre. Là. Ça aurait été bien la moindre des choses qu'on
ben oui, je le sais bien.
Qu'on le mette à la porte. Là.
Je sais bien.
Laissons-lui quelques mois au moins. On sait que ça va moyennement pour le NPD. Alors, on va espérer du côté des militants, je pense, que le congrès, qui s'est quand même bien déroulé, là, je le disais, on est sortis très unis, très heureux de ce congrès-là. Donc, ils vont espérer que ça les fouette un petit peu.
Et je veux juste te dire, Alec, et je te le dis, et je le dis à tous nos auditeurs par le fait même, on a essayé d'avoir M. Singh pour le début de l'émission. Ben oui, parce qu'on se disait, tu sais, son congrès. Et il était en déplacement vers le Mexique pour la dernière cérémonie de mariage. Parce que tu sais qu'il y a eu, une cérémonie, on a vu ça sur les réseaux sociaux, qui était un peu l'équivalent de des fiançailles dans la culture sikh. Ben là, l'ultime étape de son union avec la dame, là, qui était avec lui d'ailleurs au congrès en fin de semaine, ben ça va se dérouler là, dans les prochains jours. Ah. Il est en route là, vers le Mexique pour la noce. J'imagine c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Ah. Alors, je vois par ton attitude surprise que je te fais. Je t'annonce la nouvelle.
C'est la semaine de relâche à Ottawa. Hein. Oui. Ça ne siège pas cette semaine. Donc,
belle occasion pour se marier.
Ben, j'imagine qu'il s'en va passer un peu de temps lui aussi au soleil.
Ben oui, ben oui, absolument. C'est très bien. Bonjour Antoine.
Oui.
Bon, parlant de soleil.
Je vais dire, parlant de semaine de relâche, parce que nous, les semaines de relâche, c'est les deux prochaines. Donc, c'est la dernière semaine avant ces semaines de relâche-là.
C'est ça, vous siégez cette semaine-là.
Exactement.
Oui.
Donc, je te dis, le gouvernement a trois inquiétudes actuellement. Ils veulent sortir de la conversation et du débat sur les médecins. Ça les fatigue vraiment. Les oppositions veulent s'en servir. On sait que la semaine passée, on a annoncé une entente avec les médecins spécialistes, une entente qui ne passe pas. En tout cas, dans la population, là, c'est très difficile. Après les primes jaquettes, les primes pour arriver en temps, là, on découvre que les médecins vont encore gagner beaucoup plus, vont recevoir des montants aussi pour la fameuse dette. Et là, les oppositions veulent garder ce sujet-là vivant. Puis le Parti québécois, dimanche, a dévoilé sa stratégie en santé pour les élections. Avec, y avait là-dedans toutes sortes d'idées, là, décloisonner les actes cliniques, revoir le mode de rémunération des médecins, réduire la charge de travail des infirmières et des préposés.
Mais surtout, donc, surtout Antoine.
Oui, vas-y.
Surtout, Antoine. La remise en question de l'entente signée par le gouvernement la rémunération, ils disent que s'ils prennent le pouvoir, ils vont d'une certaine façon suspendre les versements puis obliger les médecins à venir se rasseoir. Moi, franchement, je vais te dire, pas sûr qu'une fois que l'État a signé, que tu puisses arriver puis dire on va défaire ce que l'État a fait avant nous, là.
Bien, ça serait pas la première fois quand même. Je me souviens de 1982, René Lévesque qui décide de revoir des conventions collectives.
Ouais.
Je sais pas, l'État, c'est sûr que l'État s'expose à ce moment-là
à des poursuites,
prête flanc finalement à des attaques devant les tribunaux, mais en même temps.
Tu penses qu'ils vont le faire, toi?
Je sais pas. Écoute, je peux pas prévoir, mais c'est ce qu'ils disent. Mm. Et quand on pose la question au gouvernement, allez-vous répondre au Parti québécois? Non, pas formellement. Moi, c'est comme on a répondu. On veut changer de sujet, au fond, et on veut envoyer le signal que fallait conclure cette entente-là, qu'on était un peu pogné, un peu comme tu le dis, là, avec des ententes passées. On a payé la dette, puis on est allé chercher, dit-il, des acquis en productivité. C'est ça qu'on m'a dit.
En tout cas.
Donc,
ils ont bien essayé de... Moi, je vais dire, je trouve pas qu'ils l'ont bien géré. Là. Ils ont coulé du stock pendant toute la semaine passée. Puis la nouvelle, c'était 500 millions. Puis on a fini vendredi, puis on était rendu à 2 milliards.
Oui, hein? c'est ça.
Ouf.
On peut écouter peut-être une publicité qui circule du Parti québécois, justement, qui veut frapper sur ce clou-là.
15 ans de promesses brisées et de réformes ratées des libéraux ont laissé notre système de santé affaibli et malade. Au cœur du système libéral, les médecins. Ils ont eu la part du lion. Il est urgent de mettre le patient, enfin, au cœur du système. Assurons nos aînés qu'ils auront vraiment accès aux soins à domicile dont ils auront besoin. En santé, l'argent et les efforts doivent aller dans la bonne direction, celle du patient.
C'est intéressant de noter que c'est Lisée qui fait lui-même la narration, hein?
Oui, t'as raison, c'est vrai, faut noter ça. Puis pour ce qui est de rouvrir l'entente, ben il le dit sur... toutes les tribunes, on peut l'écouter.
On veut au Parti québécois un mandat électoral fort pour réouvrir la négociation avec les médecins parce que le but du système de santé, c'est de soigner les patients et de réorganiser les choses de façon à ce que les gens soient satisfaits de leur système de santé. Puis en ce moment, c'est clairement pas le cas.
Donc, je t'avais promis trois inquiétudes. La première, c'est les médecins.
Oui.
La deuxième, c'est le redout, Bernard.
Le redout, le gouvernement est inquiet.
Le redout qui s'en vient, là, le gouvernement est inquiet parce que ça pourrait provoquer des inondations. Ça ne sera pas un petit redout. Là. Ça va en être un vrai. On m'a dit que Martin Coiteux, le ministre de la Sécurité publique, est vraiment sur un pied de guerre. On veut éviter le syndrome de l'autoroute 13.
Mm.
On veut éviter aussi le syndrome des inondations parce qu'après tout, il faut rappeler que le 19 décembre dernier, il y a eu un grand sommet sur les inondations au Québec. Puis, que disait à ce moment-là Martin Coiteux? Il avait dit « D'abord, on va déposer un plan d'action dès l'hiver prochain, avant la saison des crues. » Bien là, la saison des crues, elle arrive avant la fin de l'hiver. Donc, on n'a pas encore le plan d'action, Bernard. Alors, le plan, il va être axé sur les trois phases des inondations. Là, à son cabinet, on me dit « ça s'en vient ». Puis, c'est pas parce qu'on n'a pas ce plan-là qu'on ne peut pas intervenir. On est vraiment sur un pied d'alerte. Nos équipes suivent vraiment l'évolution des eaux là, dans les prochains jours, vraiment d'heure en heure. On est prêt à intervenir, disent-ils. Donc, il faut savoir que la troisième phase, celle de la réparation, l'indemnisation des sinistrés, celle de l'an passé n'est même pas finie.
Mais non, c'est ça.
Hein? On se souvient que la semaine passée, c'est la CAQ, je pense, qui a fait une demande d'accès à l'information qui démontre qu'en date du 18 janvier, donc ça fait un petit bout de temps, mais quand même, il y avait 457 dossiers réglés sur 6 000. plus de 6 000 soumis à la ministre.
J'ai été longuement briefé là-dessus, Antoine. Je veux juste
Vas-y.
Non, ben vas-y, c'est parce que, garde, il faut faire une différence entre régler puis fermer.
C'est ça.
Hein? Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que la majorité des dossiers sont encore ouverts, donc ils ne sont pas fermés.
C'est parce qu'il y a certains travaux qui ne sont pas faits, donc on ne peut pas envoyer la facture.
Il faut faire un petit peu attention. Et on me dit que la majorité des dossiers sont réglés, mais ils sont encore ouverts parce qu'on veut permettre notamment aux gens d'envoyer leurs factures pour le terrassement. Puis il y en a qui vont faire leur terrassement, évidemment, au printemps. Alors, ils veulent pas fermer le dossier. Ils veulent que les gens puissent réclamer cette somme-là à laquelle ils ont droit.
Puis au gouvernement, on dit on est assez fiers, au contraire, de l'aide qu'on a apportée, qui a été très rapide. Il y a des chèques qui ont été émis super rapidement. Donc, dans les oppositions, par exemple, on veut exposer l'exaspération de bien des sinistrés et je pense que c'est la caquiste de Mirabel, Sylvie Damour, qui a lancé un cri du cœur la semaine passée, qui a dit arrêter la bureaucratie puis payer. En tout cas, il y a un débat là-dessus, mais ce que je voulais mettre en relief, c'est que on a une situation qui va être problématique là, cette semaine. Je ne sais pas si ça va mener comme ça à des inondations, mais en tout cas, celles de l'an passé ne sont pas réglées.
Effectivement. Mais il y avait le troisième, c'était la Pocatière, l'usine de la Pocatière.
Oui,
voilà,
oui, exactement,
ils attendent un contrat, effectivement, parce qu'au-delà de septembre prochain ou de l'automne prochain, ils n'ont plus de commandes. On va s'arrêter, Antoine, oui, effectivement.
Le gouvernement est inquiet parce que c'est des comtés importants.
Bien sûr, et c'est des comtés libéraux, bien sûr. C'est des emplois importants. C'est une usine importante, mais dans le contexte électoral, c'est beaucoup de comtés libéraux dans ce coin-là. On va s'arrêter parce qu'il faut parler. On a parlé du NPD, on va parler du Bloc au retour. Ça s'est passé un petit peu moins bien que pour le NPD dans un instant. Antoine Robitaille et Alec Castonguay. Alec, parle-nous donc de ce Conseil général du Bloc.
Oui, qui avait lieu en fin de semaine. Et je t'avoue avoir été un peu surpris parce que Martine Ouellet a accueilli ses délégués, ses militants, avec un discours où elle se plaignait du coulage dans les médias sur le salaire qu'elle demandait. On en a parlé la semaine dernière. Donc, elle voulait 100 000 $ par année à partir d'octobre. Donc, quand elle va quitter son siège de députée à l'Assemblée nationale, elle veut être payée jusqu'aux élections fédérales, donc autour de 100 000. Finalement, on s'est entendu pour 95 000. Donc, ça a été voté, ça a été accepté. Mais donc, elle s'est plainte du coulage qui avait précédé le Conseil général où on a su qu'elle demandait ce salaire-là. C'est une drôle de façon de l'aborder parce qu'on le sait qu'il y a plusieurs députés qui n'étaient pas heureux de ce salaire-là, qui disent qu'on aurait dû le mettre ailleurs, cet argent-là. Elle va toucher une indemnité de transition, une allocation de transition quand elle va quitter la politique à Québec, autour de 120, 130, c'est pas clair le montant, mais au-dessus de 100 000 $ Puis bon, qu'on pourrait bien lui payer ses dépenses, mais qu'on n'était peut-être pas obligé de lui donner un salaire à cette hauteur-là. Donc, quand elle se plaint du coulage, dans le fond, elle se plaint de ses propres députés.
C'est clair.
C'est ça qui est particulier.
Mais c'est clair.
Bonjour l'ambiance au caucus.
L'ambiance est pourrie, l'ambiance. C'est l'enfer.
Je savais qu'il y avait quelques députés qui n'étaient pas heureux, mais ce matin, tu me disais 7 sur 10.
Oui, oui.
Tu disais ça à ta chronique à Paul Arcand. Oui. C'est quand même la majorité, 7 sur 10.
C'est pas mal la majorité.
Alors, il n'y avait pas Jean Charest, puis Antoine pourra me corriger là-dessus. Il me semble que Jean Charest disait de la couverture médiatique, qu'un politicien qui se plaint de la couverture médiatique, c'est comme un poisson qui se plaint de l'eau.
Oui.
Hein? Ça vient avec.
C'est exactement
ce que
je
disais dans le temps. Le coulage, c'est un peu la même affaire. En politique, il y a toujours des affaires qui fuitent, qui coulent. C'est la gestion du chaos. Alors, je suis un peu surpris qu'on en fasse un discours officiel puis qu'on en parle devant les militants. Tu sais, ça m'a un petit peu surpris. Donc, je te fais entendre deux extraits. Le député Luc Thériault, qui lui, pas anonyme, là, à visage découvert, dit « Je suis pas sûr qu'on avait l'argent pour accorder ça à la chef, parce qu'on n'a pas tant de sommes comme ça, que ça en prévision des prochaines élections. On gratte les fonds de tiroir, donc peut-être qu'on
a... » Il y a 200 000 dans le compte, c'est
ouais, ça? C'est ça.
C'est ça que tu disais ce matin?
Oui, oui. Ils ont besoin d'1,5 million pour décoller dans 18 mois.
Ça reste quand même une bonne somme à ramasser. Puis ensuite, je te fais entendre Martine Ouellet qui dit « Ben, c'est normal qu'un chef soit rémunéré. » Alors, je t'en fais entendre les deux. Luc Thériault d'abord, Martine Ouellet ensuite.
Moi, ma préoccupation, c'est qu'on ait l'argent nécessaire pour faire la campagne électorale. Là, présentement, il n'y a pas grand-chose à ce que je vois. Là. Donc, moi, mon intérêt, c'est qu'on puisse limiter tout ce qu'on peut limiter en termes de dépenses, puis qu'on puisse engranger un fonds électoral.
Premièrement, le parti est capable de payer un salaire à la chef. C'est un parti qui est en bonne santé, qui n'a pas de dette. On a une grande croissance des revenus. Puis deuxièmement, avez-vous déjà vu un autre député donner son allocation puis faire du bénévolat pendant une année complète. Je pense qu'on n'a pas à demander ça en politique.
Ouais.
Voilà.
Parce qu'elle va recevoir une allocation de transition du Québec.
Ben oui, parce qu'elle va quitter.
Non, mais il n'y a pas personne qui lui demandait de ne pas prendre un salaire, là, ou en tout cas, même les députés, le groupe des sept d'Ontario fait partie, ils étaient prêts à un compromis, là. C'est juste que, tu sais, t'as presque pas d'argent, en tout cas, t'as pas assez d'argent pour payer ta prochaine campagne électorale, puis la chef qui va aller chercher un chèque de 120, mettons 120 000, le 1er octobre prochain ou dans les semaines qui viennent, demande en plus pour l'année qui vient un autre 100 000, alors que tu cherches ton argent pour être capable de payer ta prochaine campagne. Je ne sais pas comment elle fait ses calculs, parce qu'elle a intérêt à ce que le Bloc ait un bon montant d'argent pour qu'elle puisse faire campagne comme chef du Bloc. À ma connaissance, elle va être encore chef du Bloc là, quand elle va arriver l'élection fédérale. Donc, j'ai un peu de misère à suivre.
Par exemple, Daniel Payet, qui avait été chef après la déconfiture de 2011, il avait remplacé Gilles Duceppe en 2012-2013. Il n'était pas député, donc un peu la situation que Martine Ouellet va vivre à partir d'octobre. Mais lui, il avait demandé 25 000 de salaire. Puis, bien, évidemment, ses dépenses étaient payées, puis c'est normal quand il se déplace à travers le Québec. Mais c'était pas un énorme salaire. Le Bloc n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Puis bon, Mario Beaulieu, à ma connaissance, quand il est devenu chef, avait presque pas de salaire non plus. Gilles Duceppe, quand il est revenu prendre du service juste avant l'élection de 2015, là, de juin à août, avait pas de salaire non plus. Mais bon, elle a dit, moi, j'en ai besoin d'un. C'est un travail à temps plein. Ce qui est vrai que c'est un travail à temps plein. Ouais, donc,
ça, c'est clair. Parle-nous vite, avant de retourner, Antoine, de cette petite exclusivité à propos de Vincent Gratton, le comédien, notamment on l'a vu dans l'auberge du Chien Noir, entre autres,
oui. Entre autres, qui va se rendre à Ottawa vendredi avec une petite délégation québécoise contre les paradis fiscaux. Ceux qui suivent Vincent Gratton sur les réseaux sociaux savent qu'il est en cabale contre les paradis fiscaux depuis plusieurs jours. Oui. Chaque jour, il interpelle directement Justin Trudeau sur Twitter, lui disant « Qu'allez-vous faire pour les paradis fiscaux? » On est rendu au 105e jour aujourd'hui. Alors, il a obtenu une audience, donc vendredi, avec Diane Leboutillier, la ministre du Revenu, qui va le rencontrer, lui et sa délégation. Ils vont rencontrer aussi des sénateurs, au moins un député du Bloc et un député du NPD. Ce n'était pas encore confirmé pour le Parti conservateur, mais ça devrait s'arranger au cours de la semaine. Donc, il va se rendre là vendredi. L'objectif, évidemment, c'est de dénoncer l'inaction canadienne. Demander des gestes qui soient posés, que le Canada arrête d'être un suiveur dans la lutte aux paradis fiscaux puis qu'il prenne des gestes un peu plus musclés. Et on va aussi proposer des idées, des solutions. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. Parce que Vincent Gratton, lui, joue le rôle du citoyen indigné.
Oui.
Je ne fais pas de jeu de moule sur le fait qu'il est comédien. Je pense qu'il est indigné pour vrai, mais c'est un peu le rôle qu'il a dans cette délégation-là, le porte-parole, la figure publique. Mais il va être accompagné de gens qui ne se connaissent pas à peu près en paradis fiscal. D'abord, Marois Risky, qui est fiscaliste, qui est l'ancienne candidate d'ailleurs du Parti libéral du Canada
qui
dans Hochelaga en 2015.
Très bonne sur cet enjeu.
Très articulée.
Oui.
Elle va être avec lui. L'auteur et professeur Alain Deneau aussi, qui est très articulé sur le sujet, va être avec lui. Il va avoir des représentants d'Oxfam, pour qui c'est un combat depuis plusieurs années, la lutte aux paradis fiscaux. Puis il va avoir des représentants du collectif Échec aux paradis fiscaux qui vont être avec lui. Donc, on a des idées qui depuis longtemps ont été amenées. Alors, on va les proposer à Mme Leboutillier, aux sénateurs, aux députés qui vont être présents pour qu'il y ait des choses qui bougent. On ne va pas juste se plaindre, on va essayer quelque chose de nouveau. Puis ce que je trouve très drôle, c'est qu'on va aussi amener à Justin Trudeau un bouquet de fleurs. Des oiseaux du paradis. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Alors, c'est
pas la première fois, je pense, que Gratton va y emporter.
Exactement. Il est allé dans sa circonscription à Justin Trudeau à Montréal, donc dans Papineau en novembre. Et pour la petite histoire, l'idée des oiseaux du paradis, c'est la fleuriste qui l'a eue. Parce qu'il est allé voir la fleuriste du marché Jean Talon, qui est dans la circonscription de Justin Trudeau, puis il a dit « Je veux amener des fleurs à Justin Trudeau au bureau de comté à côté. Qu'est-ce que je pourrais lui donner qui serait intéressant? » Puis la fleuriste a dit « Ben, les oiseaux du paradis. » Des paradis fiscaux. Alors, il a gardé l'idée. Puis là, on va en faire un symbole. On va amener un bouquet de fleurs à Justin vendredi. Il va être en Inde. Il ne va pas le recevoir lui-même.
C'est ça.
Mais sa ministre, Diane Leboutillier, devrait le recevoir.
Bon, tout n'est pas perdu.
Voilà.
Parce que Diane Leboutillier, là, on compte sur elle.
Ceci dit, je pense que c'est bien là, qu'elle le reçoive, mais je pense que c'est pas la bonne ministre pour combattre les paradis fiscaux. Je pense que c'est Bill Morneau qu'on devrait essayer de convaincre.
Ouais.
C'est lui qui est le ministre qui tient vraiment le haut du pavé dans ces histoires-là. Mais bon, Mme Leboutillier est ministre du Revenu, donc il y a un lien. Alors, elle va le rencontrer vendredi.
Antoine, est-ce que tu as une minute? Est-ce que tu es capable, une minute, de nous parler des néonicotinoïdes?
Bravo. Dis donc, néonix.
Les néonix.
C'est des pesticides qui, finalement, sont associés au déclin des populations d'abeilles. Puis le gouvernement Couillard va annoncer cet après-midi sa nouvelle réglementation, le détail de sa réglementation. On a identifié 5 pesticides qui sont particulièrement nocifs pour les abeilles, l'environnement, la santé humaine en général. Hein,
si est-ce qu'ils vont les interdire, ces 5 pesticides-là?
Bien, c'est ça. Ils vont permettre aux producteurs agricoles de s'en servir, mais sous ordonnance seulement.
Hein?
Oui. Comme si on allait chez le médecin. C'est comme. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour des compagnies qui en produisent là, dans les agronomes en question.
Donc, des agronomes accrédités pour permettre ça. L'achat ouais. en vente d'eux-mêmes.
Ben, c'est ça.
Oh boy.
On peut écouter, si on a le temps, le patron de l'UPA ce matin, puisqu'il faut se lever.
Alors, c'est sûr qu'il faut changer la façon de les utiliser. Peut-être faut arrêter, dans certains cas, de les utiliser. Tous les producteurs sont tout à fait d'accord avec ça. Mais donnez-nous des solutions alternatives. Faisons de la recherche, faisons du transfert de connaissances. Puis surtout, faisons-le, si c'est possible, sans ajouter au fardeau administratif que les producteurs supportent déjà. Bien, dans le projet qui va être présenté, là, les agronomes qui vendent de ces produits-là vont aussi pouvoir en prescrire. Si on voulait avoir des agronomes qui sont non liés, il n'y en aurait pas assez sur le territoire pour couvrir tout le monde. Puis nous, c'est ce qu'on avait demandé, d'avoir des agronomes, d'investir dans le service non lié. Donc, ça aurait pris peut-être quelques années ou deux, mais au moins, on aurait pu, ça aurait été plus crédible un peu comme démarche.
Oui, je comprends, parce que là, si l'agronome y en vend, il y a intérêt à en prescrire, me semble. Hein?
Ben, c'est ça. Pour ce qui est des solutions alternatives évoquées par M. Groslot, ben, je pense qu'il y a bien des producteurs bio qui diraient c'est possible.
En tout cas, j'espère que l'UPA va collaborer là-dedans. Là.
Ça moi, prend un débat, mais en tout cas, l'Ontario a déjà montre la voie.
Très bien, semaine. Très bien. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Merci Antoine, au revoir. Et Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
À demain.
À demain.